Bien, l'heure étant venue, nous allons entamer notre conférence. Notre conférence qui va être produite par Lionel Hermatouti, qui va nous parler des Templiers dans les bases de l'OTAN. Alors, Lionel a un fort passé, une forte actualité maçonnique. Il me rappelait effectivement qu'il est petit-fils de compagnon, enfin, je dirais un itinéraire ancré dans la maçonnerie opérative. Alors, il est rédacteur en chef de 450 FM, qui est un journal internet, que nous allons avec lui aussi découvrir à travers sa conférence, puisque c'est un journal internet qui aujourd'hui collecte plus de 4000 articles ayant trait effectivement à la franc-maçonnerie et 12 000 abonnés, 80 000 consultations par mois. Donc, je dirais que c'est quand même effectivement un journal à fort impact, hein, à fort impact si on le compare à d'autres journaux en ligne.
En fait, ce sont des blogs, et le plus ancien, citons-le, c'est tiram.be qui a été créé en 2004. Nous avons juste 2 ans d'existence, mais déjà près de 80 000 pages vues par mois. Ouais. Ce qui en fait aujourd'hui un vrai journal, et le journal le plus important de la langue francophone en ce qui concerne la franc-maçonnerie.
Tout à fait. Donc, voilà, effectivement, pour ce qui est de ce journal, à la fois de son contenu et je dirais de ce qu'il représente effectivement, Lionel aussi a produit régulièrement effectivement pour la chaîne du Lion. Hein. C'est des articles qu'on peut lire dans la
des notes de lecture, pas
dans la chaîne dans la chaîne du Lion, des notes de lecture effectivement sur voilà. Alors, le thème en lui-même, hein, les Templiers dans les bases de l'OTAN, le sujet interpelle, c'est-à-dire que Lionel va nous dire effectivement comment est né cet ordre, comment il se développe, en quoi il consiste, en quoi il est un sujet qui intéresse les francs-maçons. Et puis il va développer effectivement ce que le rituel, vous savez que le thème des imaginaires maçonniques cette année, c'est le rituel, et il insistera effectivement sur la partie rituel. Alors, on va le laisser exposer son sujet. On s'est dit effectivement que ça va prendre à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. Pour laisser effectivement la place aux questions qui ne manqueront pas effectivement, je pense, d'être nombreux, à la fois effectivement sur ce que c'est que l'ordre de Molay et sur la pratique du rituel dans cette l'ordre de Molay, puis peut-être plus largement effectivement ce que c'est que le rituel, car qu'un rituel particulier se situe effectivement dans une démarche, toujours dans une démarche et une tradition rituelle. Lionel, si tu veux bien,
merci. Je laisse la parole. Merci, Jean-François, avec grand plaisir. Bonjour à tous, bienvenue et à toutes, bienvenue à chacun. Merci donc Jean-François. Donc, je vais vous parler de l'ordre de Molay, qui est un ordre paramaçonnique américain, ce que l'on appelle la Masonic Bodies, un ordre paramaçonnique c'est un ordre initiatique qui reprend généralement les valeurs de la franc-maçonnerie tant dans son modèle d'organisation que dans son mode de fonctionnement. Donc l'ordre de Molay est connu également sous le nom de Molay International depuis les années 90 et il a été fondé à Kansas City en 1919 Et donc en 2019, il fêtait son centenaire. C'est un orgue qui tire son nom de Jacques de Molay, le dernier grand maître, 23e et dernier grand maître de l'ordre du Temple. C'est un ordre qui regroupe des garçons de 12 à 21 ans aux États-Unis, sans obligation de lien de parenté avec un franc-maçon. Donc je vous parlerai de l'histoire de cette organisation, de la structure, de son objectif, de la signification de son blason, ainsi que de son rituel et de la cérémonie pour aborder ensuite son apparition en France, dans un premier temps, dans les loges militaires de l'OTAN, et puis après, rapidement, souchée sur une obédience dite régulière et tradition, qui est la Grande Loge nationale française, et puis pour terminer avec un document exceptionnel, qui sont les deux cartes postales anciennes qui représentent la maison de Molay à Molay, le village de Molay, en Haute-Saône, qui est un document assez rare. Et je voulais remercier la présence de frères de la loge de Molay, je crois qu'ils travaillent à l'Orient, de Vesoul. Voilà, Jean-François a un petit peu dressé le plan de mon intervention. Donc l'ordre de Molay est né à la suite d'une rencontre entre un homme, Frank Sherman Land, et un jeune garçon, Louis Gordon Lower, qui se sont connus dans un moment d'adversité. En janvier 1919, Frank Sherman Land reçut un appel de son frère Sam Free qui lui a demandé d'accueillir un élève qui avait besoin non seulement d'un emploi à temps partiel, mais aussi de conseils. Le jeune homme en question s'appelait Louis Gordon Lower, il était âgé de 17 ans et était soutien de famille. Il était Lawton, c'est-à-dire Louveteau, fils de franc-maçon, dont le père, Elmer Lower, était passé à l'Orient éternel. Son père était, tout comme le fondateur de l'ordre de Molay, Frank Sherman Land, membre de la loge Ivanhoe. Voilà le fondateur Frank Sherman Dad. Dad, parce qu'ils l'ont surnommé papa, tout simplement. On le verra après, les jeunes hésitant à l'appeler par son prénom, ils ont préféré l'appeler papa. Voici le blason de la loge Ivanhoe. C'est une loge qui a été fondée en 1901, qui existe toujours, et elle porte le numéro 446 à la matricule de la Grande Loge du Missouri, une obédience qui a été créée en 1821 et qui compte aujourd'hui 315 respectables loges et un peu plus de 32 000 frères. Une obédience qui a pour devise, ce qui est assez étonnant, liberté, fraternité, égalité, quasiment dans le désordre la devise de notre République française, mais qui, comme toutes les loges américaines, se propose et met en avant le célèbre adage qui est « making good men better », c'est-à-dire rendre des hommes bons, meilleurs. C'est l'objectif de la franc-maçonnerie, puis on verra bien que les deux mollets bien collent un petit peu à cet objectif. Alors, leur première rencontre a été excellente, puisque on pourrait dire aujourd'hui que ça va se matcher entre les deux hommes, entre un adulte et ce jeune adolescent, à tel point que Land demande à Lower de se faire accompagner de quelques amis pour essayer de fonder un club, de se retrouver. Et c'est amusant, puisque ses amis et ce jeune garçon se sont retrouvés à neuf. Donc dois-je vous rappeler que l'ordre du Temple, des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon, qui a été consacré, si je puis dire, par le Concile de Troyes en 1129, eh bien, comportait lui aussi neuf fondateurs. Et donc Frank Land, guère plus âgé que ces jeunes garçons, suggère de créer un club dans lequel ils pourraient se rencontrer, effectuer des activités saines et organisées sous la supervision d'un adulte. Et en fait, cette suggestion correspondait à une attente très forte chez les jeunes, parce que beaucoup avaient perdu un parent, un père, un frère, un cousin lors de la Première Guerre mondiale. Beaucoup étaient soutiens de famille et ils manquaient de modèles masculins et de références paternelles, avec toute l'attention qu'un père aurait pu avoir pour un fils en ce qui concerne l'éducation et l'amour filial. Alors, cette première étape consistait à choisir un nom pour leur club, et en réalité, ces rencontres informelles, donc voici une photo de Jacques de Molay, 23e et dernier grand maître de l'ordre du Temple, sur lequel nous reviendrons un petit peu tout à l'heure, et voici Louis Gordon Lower, le premier de Molay. Alors, ils se réunissaient dans un lieu qui était à Kansas City, la maison du rite écossais. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, le rite écossais est pratiqué uniquement dans ses hauts grades et pas dans ses degrés, symboliques. Et c'était une maison qui enseignait à la fois le progrès humain, qui était un lieu d'étude, d'éducation, de loisirs, de fraternité, de réflexion. Donc tout cela correspondait à cette démarche que voulait insuffler le fondateur de l'ordre de Molay. Une maison du rite écossais de haut grade qui avait été fondée, lui, en 1884. Alors les jeunes n'ont pas trouvé de nom se dégageant parce qu'ils voulaient prendre comme modèle un franc-maçon, et finalement ils se sont arrêtés sur le nom de Molay parce qu'ils voulaient, en de Molay, ils trouvaient une loyauté envers l'ordre et puis une loyauté de comportement en préservant ses frères d'armes d'une mort certaine, puisque chacun sait comment de Molay est décédé. Alors on n'est pas d'accord encore sur la date, bien que ce nouveau club qui s'appelait De Molay, donc De Molay, la spécificité américaine, c'est de l'écrire en un mot, avec un D et un M majuscule et le reste en minuscule, a été fondé en réalité le 24 mars 1902, mais vous savez, comme la légende est plus belle que l'histoire, hein, dans le film avec Liberty Valence, on a fait créer cet ordre, on a voulu qu'il se crée le 18 mars, une des deux dates supposées, avec celle du 11 mars, date anniversaire de la mort de Molay, à lui lié aux Juifs à Paris. Donc je ne vous ferai pas l'affront de vous raconter la vie de Molay. Juste à la fin, je vous passerai des photos de la chapelle templière où Molay a prêté son serment à Beaune en 1265. Alors, quelques mots sur Fred Sherman Land, le fondateur de l'ordre de Molay. Voilà, je vous remets la photo. Il est né en 1880 à Kansas City. Et ce qui le caractérise, c'est son engagement dans ce que l'on appelle l'église du dimanche, son dévouement à l'église et à la prière. Il travaille assidûment au sein de l'église. Il est même surnommé le petit berger de Saint-Louis. Il est lui-même président et prédicateur de cette église, à tel point qu'il gagne une Bible à un concours d'écriture. Il se destine à des études artistiques, mais il se prête à l'entreprise familiale, qui est un restaurant qu'il revend quelques années après. Alors on peut supposer qu'à l'âge de 29 ans déjà, il ait pu faire fortune puisqu'il se consacre à la franc-maçonnerie et à l'ordre de Molay. Alors un point particulier, mais ce qui est peut-être courant aux États-Unis, c'est que sa grand-mère lui donne un pécule, tout comme son grand-père l'avait reçu, pour rentrer en franc-maçonnerie. Voilà, sa grand-mère lui a dit, Jean, tu as bien travaillé à l'école, je vais te donner de l'argent, tu vas pouvoir rentrer en franc-maçonnerie. Alors on pourra peut-être, avec les questions, quand la parole circulera, parler un petit peu de la franc-maçonnerie américaine qui est en net déclin, mais il faut savoir que cette franc-maçonnerie se transmet aussi quasiment de père en fils. Alors, les garçons, considérant, ces jeunes de Molay considérant que le fondateur est trop jeune, ne veulent pas l'appeler par référence par son prénom et choisissent de l'appeler papa, tout simplement. C'est malheureusement quelqu'un qui est parti trop tôt en 1959 d'une sclérodémie dermique, qui est une maladie auto-immune et rare qui consiste en un durcissement de la peau. Et les orphelins que sont les de Molay fêtent encore ce jour-là et pensent à leur illustre fondateur. Alors ce type de papa est donné aussi aux mères de Molay, qui ont le droit d'assister, on le verra un peu plus tard, aux cérémonies, on les appelle maman, et les frères, les francs-maçons qui assistent aussi aux cérémonies sont tout simplement appelés mon oncle ou tonton, tout simplement. Donc c'est dans un climat très, très familial et très, très paternaliste, on le verra aussi très américain, avec beaucoup de croyances en Dieu, beaucoup de références au grand architecte dans cet aspect tout à fait qui n'a peut-être pas beaucoup changé dans une américaine dite WASP, White American People, qui reste encore très présent dans le sud, dans le sud des États-Unis. Alors, nous allons nous intéresser, bien évidemment, puisque le thème, vous l'avez rappelé, cher Jean-François, c'est rite et rituel, eh bien, au fondateur et à l'auteur des rituels. Et
ils sont trompés de prénom, c'est Jean-François.
Oui. Oui, c'est le même nom, c'est assez amusant, mais il n'y a pas de lien de famille, on s'en est assuré auparavant. Il s'appelle lui aussi Marshall, donc c'est peut-être une réincarnation, je ne sais.
Des biens spirituels.
Des biens spirituels, voilà. Pourquoi pas. Alors, il a exercé, je sais que certains le sont ici, le métier de journaliste, ouais. Dans un journal locale qui avait été fondée par un sénateur du Kansas, mais il a surtout travaillé pour le Kansas City Journal, où il passa 37 ans de sa vie comme journaliste. Il s'intéressait aux choses littéraires, il était bien sûr franc-maçon de rite York. On pourrait aussi parler, si vous le désirez, du rite York, puisque chaque État des États-Unis pratique le rite York, qui fait un des rites les plus pratiqués dans le monde, mais chaque État américain a sa spécificité de ce rituel de rite York, et puis il a été associé aussi à d'autres degrés ou d'autres juridictions en amitié avec une grande loge. Et c'est lui qui a élaboré les rituels des deux mollets, rituels que nous allons voir par la suite, parce qu'il avait des talents d'écrivain, et il a mis tout son sens et tout son savoir maçonnique dans la symbolique de ses textes. Alors malheureusement, il est mort tragiquement, trop tôt, en 1931, tout simplement lors d'une cérémonie d'hommage à la Maison Blanche, alors que le président Herbert Hoover, qui n'était pas lui franc-maçon, lui tendit la main, mais il est mort. Il a mis la main à son cœur, il est mort. Alors je ne sais si c'est une belle mort, mais c'est une mort tragique. Mais son passage, j'allais dire sur Terre, mais dans l'ordre de De Molay, reste gravé dans la mémoire de tous, puisqu'il est le fondateur, d'abord c'est un travailleur acharné, il était dévoué, et surtout il est le fondateur des rituels qui font vivre amour et sagesse, selon les De Molay, au sein des rituels. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, le but, l'organisation et puis les symboles. Alors quel est le but de cette organisation, de cet ordre, parce que c'est quand même un ordre initiatique, même s'il s'adresse aux jeunes de 12 à 17, voire 21 ans, bien l'ordre de Molay vise à faire de bons citoyens, respectueux des lois qui coexistent en harmonie avec la société, qui aident les autres dans leurs besoins fondamentaux et éducatifs, et qui, par exemple, servent de modèle pour les jeunes, ou pour reprendre les mots du premier diacre à la cérémonie d'initiation. Le grand objectif de notre ordre est celui d'enseigner et de pratiquer les vertus, de vivre avec pureté, honnêteté, patriotisme et respect, comme une meilleure préparation pour l'âge de maturité, qui est l'âge adulte, hein, vers laquelle nous sommes en train d'approcher. Nous sommes honnêtement en train de nous efforcer pour être des fils meilleurs, des frères meilleurs et des amis meilleurs, de sorte que lorsque nous atteindrons les années de la maturité, nous serons des hommes meilleurs. Voilà, tout est dit dans l'objectif, ce à quoi est fait cet ordre de Molay, qui aux États-Unis peut recevoir les jeunes à partir de 12 ans. Nous verrons qu'en France, c'est à partir plutôt de 15 ans, mais c'est à partir de 12 ans que les jeunes peuvent devenir de Molay. Alors, quelle est la structure de cet ordre, puisqu'il il propose, selon les âges, diverses activités. Ce que l'on appelle le Scribe Manor, excusez pour mon anglais, on a une manoir des écuyers, je suis pas très fort en langue anglaise. C'est une formule qui a été établie en 1995 et qui est destinée, alors cette fois-ci, à des jeunes garçons, même dès l'âge de 9 ans. Dès l'âge de 9 ans, un enfant de maçon, mais pas seulement, un enfant qui voudrait avoir un parcours, j'allais dire, éthique. On verra que les Américains poussent, sans trop le dire, cette formation style Young Leader. Hein. Je ne sais pas si c'est un bien aujourd'hui, alors qu'en France, le De Molay s'attache plutôt à des vertus civiles et civiques, et pas tellement cet esprit managérial. Mais en tout cas, les jeunes, à partir de 9 ans, peuvent s'initier aux valeurs des De Molay. Ils sont considérés comme des petits frères par les De Molay, qui sont guère âgés que de quelques années de plus, et on leur enseigne déjà des symboles qui vont contribuer le jeune à devenir un De Molay, qui est la table ronde. La table ronde symbolise l'expansion de la gloire dans le monde entier, avec une place identique pour tous et sans distinction de position. Elle représente l'harmonie et la fraternité. Elle se veut, cette table ronde, une antidote à l'envie, à l'ambition, à l'aspiration, à la suprématie, au pouvoir, et représentant quelques défauts humains, bien sûr. Les livres de sagesse, alors on verra que les livres ont une importance toute particulière pour les jeunes de Molay. Les livres de sagesse sont présentés aux écuyers comme symbole de l'éducation et de la lutte pour le développement intellectuel. Dans cette société à laquelle participent les enfants, la sagesse est le compagnon qui guide ces jeunes vers des moyens plus nobles, plus performants et plus prometteurs. Pour cette raison, les livres sont placés sur la table, enseignant aux écuyers que l'avenir se construit avec un bon développement intellectuel. Sont présentés aussi à ces jeunes le maillet de la justice, car ce maillet représente la force et la puissance contrôlée. Pour cette raison, il est le symbole de la justice et du leadership du maître écuyer qui dirige les cérémonies et travaille au manoir de ces écuyers. Enfin, l'épée de vérité symbolise la parole de Dieu et montre également que la plus grande arme que nous possédons et la vérité, avec elle, nous réalisons la paix avec la famille, la confiance des gens qui nous entourent et le bonheur dans nos vies quotidiennes. Pour les écuyers, la vérité est une vertu essentielle. Ensuite, le jeune de Molay, s'il a envie de continuer son parcours, peut intégrer un chapitre de Molay. Alors c'est plus tard cette cérémonie et le rituel du chapitre de Molay que nous verrons, puisqu'il peut être suivi, pour ceux qui le désirent, de 17 à 21 ans, d'un ordre de chevalerie, des prieurs de chevalerie. Et c'est l'occasion pour les deux Molay accomplis de travailler vers de nouveaux objectifs et de donner aux membres plus âgés l'occasion d'interréagir entre eux. Effectivement, ces frères de Molay plus âgés s'occuperont des plus jeunes. Et le nom officiel de ces jeunes qui intègrent ce prieuré, c'est Chevalier du Saint-Ordre des soldats, compagnons de Jacques de Molay. Alors, cet ordre de chevalerie fait ses débuts en 1946, et les principales fonctions sont donc d'assister les de Molay et les chapitres, toujours maintenir l'intérêt pour l'ordre des anciens de Molay, offrir un programme intéressant, généralement ce sont des actions humanitaires, en France aussi, les de Molay réalisent énormément d'actions caritatives, et puis être un bon exemple, surtout il y a cette vertu d'exemple qui est toujours mise en avant pour les de Molay. Quant aux adultes, pour ceux qui souhaitent persévérer, parce qu'à l'âge de 21 ans, ils doivent quitter l'ordre de Molay, mais ils ont la possibilité de rester, et les adultes, même s'ils ne sont pas de Molay, peuvent intégrer cette catégorie qui permet aux bénévoles de superviser tous les événements, d'aider à la gestion des programmes et d'apporter souvent de la nourriture aux réunions, parce que ce qui fait le charme de ces réunions de Molay, c'est qu'après la réception d'un ou plusieurs jeunes de Molay, il y a toujours un goûter qui est offert par les fameuses mères de Molay. On verra des documents à la fin qui sont des scans de ce que doit faire une mère de Molay dans un chapitre aux États-Unis. Puis après, il y a ce que l'on appelle le membre d'un conseil suprême. Évidemment, en France, on a des suprêmes conseils, aux États-Unis aussi, mais là-bas, ils ont un conseil suprême, les de Molay, qui permettent aux membres de devenir, après 21 ans, sans quitter la structure, d'intégrer, pourquoi pas, une structure d'alumni, donc des anciens élèves. Et donc, tous ces anciens élèves sont récompensés, s'ils sont méritants, d'une Blue Honor Key, qui sont des différents grades, ils ont même une légion d'honneur à eux. Alors il faut savoir que les de Molay, j'en citerai quelques-uns, mais on va tout de suite en donner les noms, me revient en mémoire tout de suite, John Wayne, Walt Disney, qui a été de Molay, qui n'a jamais été franc-maçon, et puis le dernier de Molay, le plus efficient, le plus efficace, 42e président des États-Unis, c'est Bill Clinton, parce que Bill Clinton a reçu tous les honneurs et toutes les médailles des de Molay. Ça a été un bon parrain, en tout cas pour ce qui concerne les jeunes, ce qui fait qu'on peut à la fois parrainer des enfants de maçons et des enfants de non-maçons ou de non-encore maçons. Ce que l'on peut retenir déjà, c'est de savoir qu'un jeune de Molay qui est de Molay, quand il rentre et quand il en fait la demande, rien n'est obligé, en franc-maçonnerie, c'est quelqu'un de fidèle et qui reste très longtemps. Qui reste maçon longtemps, parce qu'aujourd'hui, toute la maçonnerie, on le verra, les États-Unis qui étaient il y a quelques 6 millions il y a une trentaine d'années, ne sont plus qu'un 1 100 000 maçons, et le fait de s'intéresser aux jeunes peut, non pas étoffer, mais peut-être éviter encore une lente inexorable décrue. Alors, les advisors, je vais vous passer une photo d'un bijou d'advisor. Alors là, voici l'organigramme de Molay tel que je viens de vous le décrire, avec à la base les différents chapitres, et puis on monte vers la structure. Alors, c'est de Molay, advisor. Alors, un advisor, c'est un conseiller. Alors, cela peut être, généralement, c'est un frère, parce qu'un chapitre de Molay est toujours souché sur une loge, qui l'héberge, qui prend en charge notamment les frais de fonctionnement, les frais de locaux, les frais de sécurité, quand besoin des frais de sécurité. Et l'advisor qui prête aussi un serment, eh bien, a le droit de porter ce type de médaille, tout simplement. Et ces conseillers sont soumis à un processus rigoureux de sélection. Ils sont généralement présents à toutes les cérémonies, mais surtout s'abstiennent d'intervenir dans la cérémonie. Ils laissent les jeunes opérer eux-mêmes. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces advisors sont appelés d'un nom gentil qui est de celui de tonton. Tout simplement. Alors, de Molay, c'est une, euh, C'est une fraternité sans frontières, c'est-à-dire que Fred Lang, le fondateur, n'aurait jamais imaginé en 1919 que De Molay deviendrait ce qu'elle est aujourd'hui. Alors les chiffres, comme généralement c'est du déclaratif, on ne va pas trop s'en faire l'écho, mais c'est à une certaine époque, il y avait quand même près de 2 millions de De Molay dans le monde. Là, on est plutôt aux alentours, de 200 000 sur les cinq continents. Et en 1922, déjà 39 des 48 États, alors des États-Unis, comportaient des chapitres de Molay. De Molay qui a franchi les frontières, puisqu'ils sont allés au Canada, en Hawaï, en Alaska, en Australie, dès 1960, en Allemagne et au Japon, au Brésil. Alors au Brésil, c'est 85 000 membres. Les Brésiliens sont très, très spirituels. Ils ont énormément de corps maçonniques. La maçonnerie au Brésil comporte plus de 200 000 membres. Mais De Molay est arrivé en Italie et dans les années 2000 en Roumanie, en France en 2015 et dans les îles Adriatiques. Et De Molay est présent en Albanie et puis très récemment en Bulgarie, en Russie. Alors les Russes font grand état et grand étalage sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les photos de tous les jeunes De Molay qui souhaitent être pris en photo, tout simplement. Mais surtout, il avait été conçu en 2019 de créer un De Molay en Ukraine. Malheureusement, cela n'a pas pu se faire. Il avait même été prévu de faire des cérémonies conjointes avec non pas la Grande Loge de Russie, mais qui est la Grande Loge régulière en Russie, mais avec les deux mollets russes, et cela n'a pas pu se faire. Mais par contre, en France, les relations sont assez poussées, avec notamment la Bulgarie et la Roumanie, où il y a déjà d'envisager des programmes de jumelage, comme on le fait pour les loges maçonniques. Voilà pour ce qui est des De Molay. Alors, je ne vais quand même pas trop tarder. Alors, le siège de De Molay dont je vous ai parlé en 1958 à Kansas City. Et puis, je vais maintenant vous présenter la signification de ce blason, qui est assez, pour certains, énigmatique. On y voit un croissant, des étoiles, une sorte de légion d'honneur, des épées, un haut, et puis surtout une couronne. Et on verra que la couronne a un rôle extrêmement important. Pour les De Molay, c'est le symbole de haute moralité d'un De Molay, la fidélité aux obligations et aux sept vertus. Alors il parle des sept vertus cardinales que représente l'ordre, c'est-à-dire l'amour filial, la vénération des choses sacrées, la courtoisie, la camaraderie, la fidélité, bon, la propreté, mais c'est plutôt la pureté d'âme et la pureté d'intention, et puis le patriotisme. Alors les pierres précieuses de la couronne, de la jeunesse, honore le fondateur Fred Lang et les 9 jeunes qui se sont liés d'amitié et les ont amenés à la création du De Molay. Les rubis rouges honorent ceux qui ne sont plus. Les perles représentaient les membres vivants des 9 De Molay originels. Et lorsque, comme pour chaque homme, le jugement dernier est arrivé, eh bien, chacun a un rubis rouge qui a remplacé la perle. Le home, vous savez, c'est l'emblème de la chevalerie dont les De Molay font preuve à travers leur courtoisie et le respect des dames, sans lesquelles il ne pourrait y avoir de caractère raffiné. Voilà, le croissant est un signe de secret et rappelle constamment De Molay leur devoir de ne jamais révéler les secrets de l'ordre ou de trahir la confiance d'un ami. Des choses qu'on retrouve finalement dans des prestations de serment ou des obligations. Et puis cette croix blanche à 5 branches symbolise la pureté des intentions de ne jamais oublier le mot d'ordre. De l'ordre, aucun De Molay ne saurait échouer en tant que citoyen, que leader, c'est l'expression qui revient souvent aux États-Unis, mais aussi en tant qu'homme. Et les épées représentent la justice, la force, mais aussi cette autre vertu qui est la clémence. Elle symbolise le combat grandissant des De Molay contre l'arrogance, le despotisme et l'intolérance, finalement, des luttes qui sont encore d'actualité, peut-être encore plus de nos jours, notamment en France. Les étoiles qui entourent le croissant symbolisent l'espoir et doivent rappeler les obligations et les devoirs qu'un frère de l'ordre a envers un autre frère. Alors maintenant, entrons dans le rituel, puisque c'est le thème, rite, rituel au pluriel et au singulier et avec majuscule, présentation de la salle, j'allais dire du décor, plus que du mobilier. Alors la salle de réception est disposée de cette manière-là. Il y a, vous le voyez, un maître-autel sur lequel repose la Bible, qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament. Il faut garder à l'esprit que nous sommes dans une maçonnerie dite régulière et de tradition telle qu'elle se pratique aux États-Unis et qu'elle est reconnue dans la, par la Grande Loge d'Angleterre, dite Mother Lodge. Je n'ai pas trouvé, moi, d'ordre de mollet, je fais en aparté, concernant les loges Prince Hall. Vous savez que les loges Prince Hall sont aussi des loges régulières, de tradition, reconnues par la Grande Loge d'Angleterre, qui ne regroupe que des gens de couleur, et qui... alors, c'est pas du tout pareil en France concernant les deux mollets, puisque les gens... Les jeunes prient comme de mollets en France. On le verra tout à l'heure, sur la table, il y a un Saint-Coran qui est à côté de la Bible, parce que le candidat, à ce moment-là, était musulman. Il n'y a pas du tout cet esprit de chapelle que l'on peut voir aux États-Unis. Donc la Bible qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament, qui n'appelle pas volume de la loi sacrée, mais qui est quand même là et toujours présent, sur laquelle on prête serment. Et puis... on y trouve à côté les livres de sagesse, les fameux livres d'école, et parfois livres scolaires, et puis parfois un bouquet de fleurs, tel qu'on le voit représenté ici. Voilà les différentes dispositions de ça. Alors on verra après à quoi correspondent les sept flambeaux avec une lumière. Voici le plan du de Molay, où l'on voit alors en haut le vénérable maître, enfin il est plutôt en bas, situé en bas, s'appelle le maître conseiller. C'est l'équivalent du rôle du vénérable maître. Il s'appelle le maître conseiller. C'est généralement un jeune qui est élu par ses pairs. En France, cela va de 15 à 21 ans, qui est élu maître conseiller. Voilà différentes dispositions. Ce qui est important, c'est la disposition qui est en triangle. On verra un petit peu après à quoi elle correspond. Voilà les différentes dispositions dans un chapitre de Molay, en sachant que quelques postes sont élus, notamment en ce qui concerne le maître conseiller, donc l'équivalent de vénérable maître, des conseillers seniors et juniors, qui sont les équivalents de premier et second surveillant, finalement. Du trésorier, mais qui est assez facultatif, puisque généralement les cotisations se payent maintenant sur Internet à l'ordre de Molay international, et il n'y a plus forcément besoin de frères trésoriers pour collecter les fonds. Et puis après, les autres sont nommés, comme les scribes, les experts ou les diacres, et puis les différents administrateurs, sentinelles, maréchal, porte-étendard et orateur. Alors voilà la vêture du maître conseiller. Alors il faut noter la spécificité, c'est que cette vêture-là, qui est employée donc en France, c'est le chapitre de Paris qui la porte, elle date des années 60, et elle a été utilisée au sein du chapitre de Molay sur la base militaire de l'OTAN de Châteauroux. Donc c'est une antiquité. Enfin, on a eu la chance, avec le départ des Américains, qu'ils ne soient pas repartis avec les décors, mais les aient confiés à l'obédience qui va héberger après les jeunes de Molay. Alors nous allons voir quelles sont les autres vêtures d'un de Molay, qui sont vêtues donc d'une cape. Là, le jeune a un rituel dans les mains. Pour ce qui est des rituels, bon, il se présente, vous connaissez peut-être le format, qui reprend surtout les formats en anglais du rite émulation ou du rite York, et il se présente de cette matière-là. Donc il tient entre ses mains un rituel, parce qu'on n'exige pas le marqueur, et voici la vêture donc des officiers et des deux mollets au sein d'un chapitre, alors que le maître conseiller est reconnaissable avec sa tenue rouge. Alors voici l'entrée d'un chapitre de Molay tel qu'il est conçu, c'est-à-dire que les jeunes arrivent toujours en triangle, le maître conseiller devant lui, il s'agenouille devant la Bible en signe de respect. Et ce qui est important quand nous allons aborder la cérémonie et la prière, voici la position de la prière telle qu'elle est demandée à un jeune de Molay. Donc ce sont des documents qui sont issus des rituels américains. Donc c'est vraiment un signe de référence par rapport au livre saint. Livre saint qui est généralement mis en place par le chapelain avec beaucoup de respect, avec beaucoup de cérémonie. Et le chapelain s'agenouille pour réciter la prière. Alors, concernant l'arrivée d'un... Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Le livre saint, en l'occurrence, ce jour-là, c'était un jeune musulman qui était reçu parmi les deux mollets, et le Saint-Coran était mis à côté de la Bible, et ce jeune a prêté serment sur le Coran, son livre saint. Alors, mais avant d'être reçu de mollet, le jeune doit signer un code de conduite qui dit que le de mollet doit servir Dieu, qu'il doit honorer les femmes, aimer et honorer ses parents, être honnête, être fidèle aux idéaux et à ses amis, pratiquer un travail honnête, être un homme de parole, être courtois, être à tout moment un gentleman, être patriote en temps de paix comme en temps de guerre, qu'il doit être pur dans son corps et dans son esprit, qu'il doit suivre scrupuleusement ses études, porter toujours la réputation d'être un citoyen respectueux des lois, respecte les règles auxquelles il s'est engagé, ne publier pas de propos d'images contraires à l'ordre ou sur les réseaux sociaux, donc ils ont su s'adapter au temps. Il doit être surtout, comme tout maçon, finalement assidu aux tenues. Donc il s'engage à respecter ses règles, et c'est contresigné par son parrain, et puis le frère responsable du candidat, en quelque sorte, un petit peu comme en franc-maçonnerie, où on peut avoir un parrain ou une marraine chez nos sœurs, le frère s'engageant à chapeauter, être un peu le mentor de ce jeune de mollet. Alors, avant d'ouvrir la cérémonie, c'est une cérémonie qui est accessible à tous, c'est-à-dire que généralement les mères assistent à la réception de leurs enfants, mais n'importe quel profane peut y assister, en sachant qu'il doit lui aussi prêter un serment, qui est un serment de confidentialité, qui est lu par le maître conseiller, qui dit à ceux qui assistent aux travaux du chapitre, donc en sorte une demande de ne pas dévoiler ce qui s'y passe, « Placez votre main droite sur votre cœur et gardez le silence en la présence de Dieu et des témoins. Jurez sur votre honneur de ne jamais divulguer ce à quoi vous allez assister et à quoi vous assisterez dans ce chapitre de l'ordre de Mollet, dans les cérémonies rituelles de l'ordre, et que vous encouragerez la fidélité de chaque membre de l'ordre de Mollet et l'observance loyale de cet engagement, dit « Je le jure ». Alors, généralement, comme ce sont les mamans des jeunes de Mollet qui sont reçus, bien évidemment, ce serment pour elles n'est pas dit en vain, parce qu'elles ont toujours un œil, je pense, maternel sur leurs enfants. Voilà ce qui est et qui précède la cérémonie de réception d'un jeune de mollet. Et le moment extrêmement important, c'est ce que l'on appelle chez eux, chez les de mollet, la couronne de la jeunesse, mais qui est donnée au sein de la cérémonie de lumière. C'est comme ça que s'appelle la cérémonie de réception d'un jeune de mollet, sur laquelle nous allons aborder. Alors, les bougies qui sont importantes, je vous les ai montrées tout à l'heure. La première bougie symbolise l'amour des parents, cet amour qui existe avant la naissance, pendant la vie du jeune, qui existe même au-delà, c'est noté, qui suivra même au-delà de la tombe. Les parents aimeront même au-delà de la tombe leurs enfants. La deuxième bougie, c'est l'emblème de la révérence pour tout ce qui est sacré. Hein, on est toujours dans une foi éternelle au Seigneur, au grand architecte de l'univers. La troisième bougie représente la courtoisie, une courtoisie qui transcende les amitiés et qui atteint tout le monde, des plus âgés et tous les hommes en général. C'est, pour eux, la courtoisie apporte un sentiment chaleureux et un sourire qui rend la vie plus agréable. Les Américains sont assez basiques dans les définitions des choses. Pour eux, c'est cela, la courtoisie. La quatrième bougie, elle représente la camaraderie. C'est-à-dire que le fait de s'agenouiller devant l'autel, cette prestation de serment devant un autel qui est dédié au plus haut principe de la filiation, de la bonne citoyenneté, eh bien font que les deux mollets sont vraiment soudés comme les cinq doigts de la main. D'ailleurs, la cinquième bougie représente la fidélité. Et cette fidélité, on la revoit aussi en prenant le nom de deux mollets, c'est une fidélité à Jacques de Mollet qui s'est sacrifié sans livrer ses camarades. Une sixième bougie qui symbolise, elle, la pureté, qui n'est pas corporelle, c'est une pureté de pensée, de parole et d'action, qu'on peut retrouver par exemple dans la représentation du chandelier à trois branches qui est sur l'autel de Vénérable Maître qui travaille au rite écossais rectifié, puisque les trois bougies symbolisent la pensée, la volonté et l'action de Dieu. Et puis la dernière bougie, c'est l'emblème du patriotisme. Le patriotisme qui est exalté à la fois dans la cérémonie de démonstration, de présentation du drapeau, où les jeunes doivent se tenir au garde à vous, et ce patriotisme dans lequel le jeune de Mollet s'engage à être fidèle et dans la paix et dans la guerre à son pays. Alors cette cérémonie du, du drapeau, et bien les drapeaux de l'ordre de Demolay et du drapeau national, donc en France c'est le drapeau tricolore, qui sont présentés aux jeunes, Demolay. Alors, nous allons aborder le rôle de la couronne. Alors, je peux vous lire quand même la prestation de serment, parce qu'elle est éloquente, et puis elle précise comment se situe l'esprit du Demolay, comme je vous l'ai dit. Je ne vois pas, tu sais.
10:46.
Ah oui, ben on va aller très vite, on va juste aborder la cérémonie de la couronne, et puis on passera aux bases américaines. Hein. Alors, je ferai l'impasse, mais ça, je pourrais remettre un texte retravaillé, plus court que ce que j'ai fait parvenir aux imaginales pour vous synthétiser ce que représente la couronne de la jeunesse. Alors, le précepteur passe devant les surveillants et les différents offices en décrivant ce qu'elle représente. La couronne représente la révérence pour toutes les choses consacrées. C'est un bijou qui représente l'amour filial. Une jeunesse qui... Parce que cette couronne donc, a des rubis, et chaque rubis représente une valeur. Elle représente aussi le bijou de la courtoisie, le bijou de la camaraderie. Elle reprend aussi finalement ce qui est noté en ce qui concerne les bougies. Elle représente aussi, un des bijoux représente la fidélité, un autre bijou celle de la pureté d'intention, d'action et de pensée. Et puis le dernier bijou représente le bijou du patriotisme. Voilà pour ce qui est de cette couronne qui est extrêmement importante, et quand elle est achevée, cette couronne revient sur l'autel, sur le plateau du maître conseiller qui fait office de vénérable maître. Voilà, je vais vous passer quelques vues de la cérémonie où vous voyez que la couronne déambule. Hein, ce voyage symbolise le travail d'un jour, du lever du soleil au coucher du soleil, un peu comme la loge s'ouvre... comme le soleil parcourt son chemin de l'Orient à l'Occident. Alors voilà cette première base américaine, la base américaine de Châteauroux des Halles, où le rituel et le chapitre de Demolay, le premier en France, a été consacré. Mais je note, puisque nous sommes en région Grand Est, qu'il y a eu des loges américaines qui s'appelaient Meuse-Argonne Lodge à Verdun, Lafayette Lodge à Strasbourg, Fellowship Lodge à Marville, dans la Meuse. Certains doivent connaître peut-être cet endroit. Harmony Lodge à Bar-le-Duc. Nous avons aussi des loges et des ateliers à Ingrande, à Chinon, et puis à Lens. Je pense à la base américaine de Lens-Couvron, où j'ai eu le plaisir de travailler quelques années pour le ministère de la Défense, et c'est sur une base américaine désaffectée, mais qui nous permettait de faire de très belles choses quand même à Lens-Couvron. Alors, ce premier chapitre de Demolay a travaillé pendant quelques années, jusqu'au départ des Américains, par la volonté du général de Gaulle le 7 mars 1966, mais ils nous ont laissé quelques éléments, notamment les décors et puis aussi une Bible. Alors je vais vous passer quelques images de Châteauroux des Halles, des images qui nous ont été données par M. Didier Lefrêne, qui est le directeur d'exploitation de l'aéroport de Châteauroux, avec des images d'époque, où l'on voit les dignitaires américains, parce que la loge de Châteauroux était donc support d'une jeune loge de Demolay, et voici la patente qui a été délivrée à Boston en 62, la patente Lafayette Châteauroux pour le chapitre Demolay de Châteauroux, avec quelques détails de la patente. Et je vais maintenant vous passer à la fois le livre des constitutions de l'International Suprême Conseil de l'Ordre des Demolay, d'un rituel de Demolay, un livre de poche du manuel de Demolay, à l'identique de ce qui a été reproduit pour la France, avec une table des matières qui détaille pas mal de choses. Des flyers de présentation, parce que vous savez que les Demolay, enfin les Américains, c'est le fait de n'avoir jamais connu sur leur territoire de guerre, de période hélas funeste, où la bête immonde est venue, même jusqu'au temple ici, marquer et à effacer le fronton. Eh bien, les Américains font énormément de publicité pour essayer de, d'inciter les deux mollets à devenir et les jeunes de devenir deux mollets. Le club des maires, le Mother Club, qui est extrêmement important, qui ne pourrait pas fonctionner puisque le fonctionnement se fait grâce aux bénévoles. Les vœux d'un jeune de mollets qui veut rentrer en deux mollets, chez les deux mollets, et puis différentes cartes de membres telles qu'elles sont délivrées encore aujourd'hui avec ce rituel de chevalier. Alors le rituel de chevalier, vous l'avez compris, c'est le grade au-dessus des deux mollets pour les deux mollets les plus âgés qui veulent rentrer dans une sorte de prieuré, et le chapitre de mollets du Châteauroux, une des rares photos de l'époque. Et puis comme je vous l'avais promis, pour terminer, à Beaune, la chapelle templière où Jacques de Mollets a prêté son serment, sur laquelle figure cette plaque-là, serment du chevalier au temple, en 1265. Et puis la maison natale de Jacques de Mollets, au village de Mollets, en Haute-Saône, telle qu'elle était visible en 2018. Je ne sais pas si elle... Je crois qu'elle a connu d'autres dégradations depuis. Et puis, chose importante, avant l'incendie de 1936 ou 37, telle que se présentait la maison seigneuriale des parents de Jacques de Mollets, où de Mollets a vécu. Donc cela, ce sont des images qui n'ont quasiment jamais été... montrer, ainsi que celle-ci sous un entre-angle. Voilà, tout simplement, et j'en ai terminé, mon cher Jean-François. J'espère avoir été suffisamment clair pour que vous ayez bien compris l'esprit d'un ordre paramaçonnique au sein d'une franc-maçonnerie régulière et tradition, mais on s'aperçoit que finalement, ce qui est enseigné aux jeunes, en tout cas en France, est enseigné sans cet esprit leadership managérial, mais avec le respect des lois de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité, l'amour des parents, l'amour de l'école, et puis aussi l'amour des drapeaux, finalement ce qu'on recevait comme enseignement quand nous avions à l'école primaire des leçons de civique, tout simplement, de morale.
Merci Lionel, tu nous as fait découvrir effectivement, pour moi et je pense pour beaucoup de membres de notre auditoire, effectivement, une expression de la franc-maçonnerie que l'on connaît mal et qu'on ne connaît pas, effectivement, tout au moins dans la tradition de la franc-maçonnerie libérale. On a bien compris, effectivement, que l'ordre de Mollet est très empreinte, effectivement, de la franc-maçonnerie anglaise, en fait, la tradition d'York qui est la... l'expression de la franc-maçonnerie aux États-Unis. On a bien compris effectivement là qu'il s'agit effectivement d'une forme d'externalisation effectivement vers un public, hein, pour parler certainement comme on doit parler à l'ordre de Mollet, bien particulier qui est la jeunesse. On y retrouve bien effectivement les valeurs maçonniques. Tu nous as bien expliqué comment l'ordre de Mollet était souché à des loges, et même si les vertus ne sont pas toujours exprimées dans le même ordre que l'ordre dans lequel on l'exprime chez nous, elles sont bien là. Merci encore. Alors, on va laisser la parole sur les colonnes. Je ne doute pas effectivement qu'il y ait des questions. Vous la demandez comme ça se fait en levant. S'il te plaît, à toi.
Merci pour cette brillante intervention. Je n'ai qu'une question à vous poser. Où sont les femmes ?
Alors, je crois que Juvet a répondu à la question, hein, mais plus sérieusement, c'est justement parce que les femmes ne sont pas admises dans cette franc-maçonnerie dite régulière et de tradition, hein, qu'ils ont créé ce que l'on appelle l'ordre de l'Eastern Star. Aux États-Unis, il y a une vingtaine d'ordres paramaçonniques. Les plus connus sont l'ordre des Shrines. Les Shrines, à une époque, il fallait $1 million pour être Shrine, et les Shrines construisaient, bâtissaient des hôpitaux, des fondations, des maternités, des orphelinats, des maisons de retraite. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, vous avez d'une part à l'entrée de chaque ville quasiment les panneaux avec la loge et les dates des tenues, parce que c'est une franc-maçonnerie ouverte, que tout le monde porte généralement sur sa voiture l'écusson To Be One Ask One, pour en être un demande à un. Hein. Et puis, les femmes n'étant pas admises en franc-maçonnerie régulière et tradition, eh bien, ils ont créé l'ordre de l'Eastern Star, l'ordre de l'étoile d'Orient, qui est un ordre, avec celui des Shrines, un ordre paramaçonnique extrêmement important. Et généralement, ce sont les épouses de francs-maçons qui se réunissent au sein de cet ordre paramaçonnique. Et d'ailleurs, pour les filles, pour les filles, c'est l'ordre du Rainbow. L'ordre du Rainbow, c'est l'ordre de l'arc-en-ciel, qui reprend, c'est l'équivalent féminin de ce que peut être le de Molay, mais je dois dire que pour les filles ont un dress code très, très sévère, il y a une jupe qui doit être à telle hauteur, je crois, sous le genou, une coupe de cheveux, des choses, mais elles s'orientent vers des actions caritatives, ce qui est important aux États-Unis, mais il y a une partie de la franc-maçonnerie qui sont d'ailleurs, moi je vous invite à lire le... dans le dernier franc-maçonnerie magazine, où il y a un très bel article de Jean-Maurice Weinberg sur la Grande Loge unie d'Angleterre, qui est en net déclin, puisqu'il y a 1 100 000 membres. Elle est aujourd'hui affichée sur son site à 175 000 membres. Il faut rappeler que dans le Times, il y a 3 ans, elle affichait 192 000 et quelques membres. Hein. Eh bien, dans cet article sur le dernier franc-maçonnerie magazine de Jean-Maurice Weinberg, il est dit qu'il y a une franc-maçonnerie à Londres, mais on le verra, c'est aussi valable aux États-Unis, avec le Grand Orient, le droit humain, la Grande Loge aussi de France qui s'épanouit à Londres. Et bien c'est vrai aussi aux États-Unis où il y a une présence maçonnique française libérale, progressive, adogmatique, à tiret, j'aime bien, parce que Philippe Guglielmi, il a créé ce mot de adogmatique avec le tiret pour dire que c'est justement pas dogmatique. Et bien il y a une franc-maçonnerie en Amérique française qui reçoit les sœurs, notamment il y a un droit humain, je crois, à New York, et la présence maçonnique féminine est de plus en plus importante. Et on peut penser, compte tenu du déclin de l'autre et de la montée de cette dernière, eh bien les choses pourraient un jour s'inverser. Le problème de la maçonnerie américaine, c'est qu'elle elle ne comprend que des personnes âgées. Il faut savoir qu'avant, nous étions maçons américains, parce que c'était le système d'entraide mutuelle. On était blessé, on était malade, il y avait la caisse de secours, le tronc de la veuve qui venait en soutien en famille. Depuis les créations des assurances vie, des assurances décès, des assurances mutuelles classiques, eh bien, il y a eu aussi ce déclin. Et puis il y a eu aussi peut-être le désengagement de certains qui se sont tournés vers des églises. Il n'est pas rare de voir dans les villes une quinzaine d'églises, de la baptiste à la baptiste, aux témoins de Jéhovah, aux mormons, à la scientologie, qui est reconnue tout simplement comme une église aux États-Unis, qui capte beaucoup de monde, parce que pour survivre peut-être aux États-Unis, il faut faire partie d'une communauté. Alors malheureusement, les femmes ne sont pas peut-être aussi nombreuses et aussi volontaires pour créer un ordre fraternel maçonnique, comme c'était le cas en Angleterre, où 2 ans, finalement, sont reconnus comme
tels. Lionel, on attend encore les questions. Je voulais préciser effectivement que le Grand Orient de France aux États-Unis se développe de façon significative ces dernières années, et citer la dernière loge qui s'est créée aux États-Unis, à Fort Lauderdale, près de Miami, qui en 7 ans est montée à 40
membres. Hein. C'est une loge qui communique très bien sur les réseaux sociaux, et vous pourrez trouver leur fête annuelle, je crois, en fin d'année, au bout de moment.
Les autres questions, c'est...
Moi, il me semble que ce que je retiens de cette conférence, c'est une leçon. Le souci de transmettre des valeurs à la jeunesse, et il me semble qu'en France, effectivement, on est un peu faible sur le sujet. Donc je pense qu'on a une leçon peut-être à tirer de l'existence de cet ordre de Molay. D'un autre côté, évidemment... il faut savoir quelles valeurs on transmet, quelles valeurs on véhicule à travers de ces rassemblements de jeunes. Et là, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une mystique de la famille qui démarre avec l'idée que le fœtus aurait déjà cet amour de ses parents, ce qui me semble un peu, enfin, pour le moins douteux comme idéologie. Et puis ensuite, effectivement, ces rôles très spécifiques dévolus au père qui est un modèle et à la mère qui va fournir des gâteaux pour le goûter, la mère officière. Voilà, il y a quelque chose quand même de très conservateur et même peut-être...
Ah oui, merci, mon frère.
Non, mais en France, il faut reconnaître que, je crois que c'est au Grand Orient de France, il y avait les cadets de la République qui s'occupaient de jeunes. Il y a aussi la colonie de vacances, la Clarté, qui fait office de... Moi, je sais que j'ai le fils d'un ami qui a fait plusieurs séjours au sein de cette colonie de vacances, dans le Massif central, et puis au bout de deux ou trois colonies de vacances, ils lui ont demandé s'il ne voulait pas être moniteur, et puis finalement il a refusé, mais voilà ce qui pourrait être fait. Et puis parlant des jeunes, c'est vrai qu'au Grand Orient de France, nous avons un pôle jeunesse qui est extrêmement important, de 18 à 35 ans, avec des réunions bien particulières, avec des responsables d'un pôle jeunesse, sous l'égide du grand maître. Donc il y a quand même une prise de conscience. Alors, ce qui est bien aux États-Unis, c'est qu'ils essayent d'enseigner des valeurs. En France, les valeurs qui sont enseignées à travers les deux mollets, c'est surtout une aide caritative qui est donnée. Je prends l'exemple de Miss, qui est le chapitre le plus important, quasiment tous fils de maçons, 50 jeunes. Tous les ans, ils ont ce qu'on appelle l'œuf de Pâques. C'est l'œuf de Pâques qui est offert à tous les enfants qui sont dans les hôpitaux. Ils sont intervenus pour des nettoyages de plages et plein d'actions humanitaires et caritatives. C'est le but qui est donné surtout en France, avec le respect des valeurs de la République.
Non, mais c'est vrai effectivement que l'ordre de Mollet, les chapitres sont souchés à des loges. Je crois que c'est ça la particularité qu'on n'a pas. C'est vrai que le pôle jeunesse, il faut le citer quand on parle de l'ordre.
Moi j'avais une question, il n'y a plus rien de militaire dans l'ordre de Mollet, c'est pas comme la charbonnerie. Il n'y a plus aucun rapport avec.
Moi qui suis bon cousin charbonnier en forêt de chaux dans le Jura, moi j'ai jamais vu de choses militaires dans les cérémonies et les ventes charbonnières. Bon, il faut dire que ce sont des ventes charbonnières classiques, telles qu'on le faisait au 19e siècle, pour parler de la charbonnerie juste dans le Jura. Il faut savoir qu'elle a été exterminée dans le milieu du 19e siècle, il y a 400 morts en forêt de chaux, et on cherche encore le trésor des charbonniers qui, avant de mourir, l'auraient enterré en forêt de chaux. La forêt de chaux, ce n'est que la deuxième plus grande forêt de feuillure française après la forêt de Fontainebleau. Donc on peut encore chercher, mais avec une poêle à frire, on n'est pas prêt de la trouver. Mais ce qu'il y a peut-être de militaire dans la charbonnerie, c'est l'or de lancement et l'or, parce que c'est vrai que si votre meule brûle, c'est foutu, et le charbonnier, il a plus de sous. Mais non, il n'y a plus rien de militaire. D'ailleurs, il n'y a eu dans l'aspect de militaire que l'hébergement sur les bases de l'OTAN, parce que vous l'avez bien compris, ça se fait en vase clos. La loge américaine est sur une base militaire, j'en ai cité quelques-unes, et elle héberge, en quelque sorte, dans ses locaux, ces jeunes de Mollet. Et ces jeunes de Mollet, à l'époque, étaient tous enfants de militaires, donc ils sont élevés. Il faut bien voir que les Américains, je parlais du WASP tout à l'heure, du White American Split People, c'est encore... Le président Bush, il y avait la prière le matin, il y avait des tas de choses qui marquent cette imprégnation du peuple américain pour des valeurs traditionnelles blanches protestantes, hein. Pas catholiques romains, blanches protestantes. Hein. Mais il n'y a plus rien de militaire. Ce qu'il y a de militaire, c'est cet esprit, l'esprit du de Mollet, l'esprit de sacrifice, aimer son pays en temps de paix comme en temps de guerre. Et il y a un respect de la norme, de la hiérarchie, l'amour du grand architecte de l'univers, et puis surtout cet amour envers ses parents et l'école. Il y a une très grande place qui est faite aux livres de sagesse, aux livres d'école, qui sont déposés à côté de la Bible sur l'autel.
Excuse-moi de t'interrompre, on va laisser la parole à Jacques.
Oui, je voulais intervenir simplement pour tempérer l'enthousiasme sur l'implantation de la maçonnerie libérale aux États-Unis. Tout confondu, obédience francophone, anglophone, hispanophone, ça représente moins de 5000 membres, au grand maximum sur l'ensemble du territoire nord-américain.
Ça fait 10%.
Donc il faut pas exagérer le rapport de force. Hein. Et la deuxième chose, et je m'étonne que Loric Guillaume ne soit pas intervenu, américaniste s'il en est, parce que je voudrais savoir... Il y a les ordres purement maçonniques dans la tradition et il y a toute une série d'ordres paramaçonniques et j'aimerais savoir quelle population ça représente encore aujourd'hui aux États-Unis dont font partie bien évidemment l'ordre de Mollet. Merci de vos réponses à Loric.
D'autres questions?
Personnellement, je ne pourrais pas répondre à la question des effectifs, ce n'est que du littératif. Je peux citer les 18 ordres paramaçonniques les plus importants, mais nulle part il est fait mention de l'effectif. Ça reste, je pense, assez confidentiel pour ce qui concerne les Easton Star. Je ne connais pas le pourcentage d'épouses de maçons qui sont rentrés à Easton Star. Ce que je sais, moi j'ai eu la chance de pouvoir visiter le temple de Las Vegas. Ce qui est assez amusant, c'est qu'il y avait l'ancien grand maître de la Grande Loge du Texas. Il me racontait que dans leur loge, avant de rentrer en loge, ils déposaient leurs armes dans une corbeille. Ils rentraient quand même en loge sans leurs armes. Mais il n'y avait que des vieux maçons français qui avaient travaillé sur les bases américaines en France, en Europe et en Angleterre, qui attendaient le touriste. Les frères de plus de 90 ans, c'est vous dire la place du... La, 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 l'âge des dignitaires. Par contre, il y avait une place de parking pour le grand chiffon de Master, le vénérable maître, et les surveillants. Hein.
Très bien, très brièvement pour répondre à, en 10 secondes.
En 10 secondes, les objectifs je ne connais pas trop, mais il faut savoir que tous les ordres initiatiques, il n'y a pas que les francs-maçons, tous les ordres initiatiques, les Hot Fellows, les Shriners, etc., il y a de multiples groupes initiatiques. C'est là, tout de même la concentration la plus forte au monde, hein. Même si évidemment la franc-maçonnerie s'écroule, bah, c'est peut-être pas valable uniquement pour la franc-maçonnerie. Eh bien, tous ces groupes fraternels ont leur semi-groupe, leur groupe rattaché, qu'on pourrait appeler paramaçonnique. Pourquoi ? Parce que même les groupes qui ne sont pas rattachés directement à la franc-maçonnerie sont largement structurés par la franc-maçonnerie. Donc, ça représente tout de même quelques milliers de gens. Mais je ne pourrais pas dire exactement. Très bien.
On s'arrête là. Peut-être une dernière question, mais vas-y.
Vous avez indiqué que certains croyaient à l'existence du guet-apens. Dans ce cas, quand ils prêtent serment sur quoi ?
Ils prêtent serment sur la Bible.
Ou le Coran.
Aux États-Unis, sur la Bible. En France, la photo de l'hôtel était avec un Coran, parce que ce jour-là, c'était un jeune musulman qui était reçu. Mais sinon, ils prêtent serment sur le livre saint. Le livre saint, en franc-maçonnerie, dite régulière et tradition, c'est le volume de la loi sacrée qui, en France, doit le VLS, hein, comme on l'appelle en abrégé, qui comprend automatiquement l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà. Généralement, qui est ouvert au prologue de l'évangile de
Saint-Jean. Ce qui est intéressant, c'est que le passage, le serment sur le Coran montre effectivement que le Dieu de Molay, c'est le dieu de celui, effectivement.
Oui, de celui qui rentre. Hein,
qui rentre.
Et qui croit. D'ailleurs, on ne lui pose même pas la question, monsieur, croyez-vous en Dieu ?
Ah oui, oui.
Oui, non, on ne pose même pas la question à un jeune de Molay. On lui demande quel est le livre sur lequel il doit prêter serment. Il lui dira, ben, c'est le Talmud, c'est la Torah, c'est...
Bientôt.
Voilà.
Bon, Lionel, au nom de tout l'auditoire, je te remercie.
Merci à vous.
Des imaginales de ses deux coprésidents, Jacques Auréfis, Patrice Lhote, et de son secrétaire Jean-Pierre Bézel, je te remets effectivement le diplôme qui atteste effectivement de ton passage parmi nous et de la qualité effectivement de ce que tu nous as produit aujourd'hui.
Et je reste bien évidemment à votre entière disposition par le biais de 450.fm, hein, puisque si vous avez des questions, vous pouvez me poser directement la question, parce qu'à mon adresse mail qui est affichée.